La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos cents dans la petite enveloppe. Là. C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une cent d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de cents dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Cube Radio.
Monsieur Anberg.
Monsieur Cassavant, laisse-moi te souhaiter une très bonne année remplie de santé et bonheur pour toi et ta famille.
Oh, très bien dit. À nos auditeurs également, Russ, et aux gens qui nous regardent au balado le dernier round.
Ça, c'est vrai. À tous nos écouteurs, à nos auditeurs, c'est sûr. Mais personnellement, à toi, c'est fun qu'est-ce qu'on fait, puis je voulais te souhaiter ça, mon ami.
Parce que ça, t'es plus de bonne humeur aujourd'hui que tu l'étais hier, ça, c'est sûr.
Cheers! Mais c'est toi qui m'as mis en mauvaise humeur hier.
Oui, ça arrive souvent quand même, hein, tu vois. Donc, merci beaucoup. Je te souhaite pareil et je te souhaite également plusieurs victoires dans les coins de boxeurs professionnels que tu vas travailler avec durant les semaines qui s'en viennent et spécifiquement ou spécialement au Usyk contre Fury. Oh. Qui arrive au mois de février. À quel point, personnellement, que ça, dans ta liste de victoires, le, c'est que tu as plus apprécié?
Ça va être vraiment dans le top 5, c'est sûr. Mais tu sais, ça arrive que tu as des combats que absolument tu veux pas perdre. Tu veux absolument gagner. C'est personnel, là. Celui, c'en est un.
Oui. Et on a hâte de voir la préparation. On a en masse de temps de parler du combat Fury aussi dans les semaines qui suivent, mais on a plusieurs sujets quand même dans un balado chargé pour débuter l'année 2024. On remercie beaucoup les auditeurs qui nous écoutent sur le podcast par rapport à Cube Radio, pardon, également si Spotify, tvsport.ca, si vous voulez goûter la vidéo et voir les réactions de M. Russ Anberg en direct.
Ça, on devrait faire ça un jour, de parler de les combats les plus important à moi personnellement durant ma carrière. Ça sera bien. Je suis en train de le penser, puis oh, il y a des bonnes histoires là-dedans.
Mais c'est un chapitre dans ton livre qui va éventuellement être publié, non?
Éventuellement publié, je sais pas, mais oui, c'est un chapitre dans le livre.
Ouais. Parce qu'il y a important, puis il y a marquant. Tu as eu plusieurs différentes soirées. Des fois que tu étais plus occupé à raison des coupures, oui. D'autres soirées en tant qu'entraîneur. Donc, effectivement, on se donnera du temps pour en nommer quelques-uns, peut-être même à la fin du balado. Sinon, on consacrera plus de temps dans un balado futur. Vous pouvez nous écrire également, vu que Russ Anberg, en 2024, éventuellement, il sera admissible à Twitter et la plateforme X. Mais pour l'instant, écrivez-nous au dernier round box à commercial@gmail.com et ça va nous faire plaisir de répondre aux questions et commentaires, vos prédictions pour de certains combats également. Donc, Russ, si on commence l'année 2024, la dernière fois qu'on s'est parlé en 2023, t'es en Arabie Saoudite pour le gros gala de boxe du 23 décembre.
Oui.
On n'a pas eu de balado depuis le temps des fêtes et là, on est de retour. Est-ce que t'es encore... Comment je pourrais dire? Est-ce que tu as encore des souvenirs de Riyad assez précis de la soirée? Parce que ça n'a quand même pas été, en termes de ce que tu as travaillé dans le coin avec Makhmoudov, c'était pas le résultat souhaité pour Aslam Beck, qui a perdu contre Agit Kabayel par knockout, mais il y avait d'autres combats importants également de la carte. Donc, c'est quoi qui tu te souviens le plus de la soirée de Riyad?
Bien, premièrement, qu'est-ce que je vais toujours souvenir, c'est comment que les gens là-bas sont tellement sympathiques, puis comment qu'on était reçu là-bas par tout le monde, que ce soit les citoyens dans la ville ou qui n'avaient aucun rapport à la boxe, ou dans un resto, ou à l'hôtel, ou partout, on était tellement bien reçu. Puis c'est, tu sais, ils disent que c'était mal organisées. Tu sais, souvent, c'est des choses mal organisées. Il y a certains détails, oui, qui sont mal faits, mais dans l'ensemble, de bouger tellement de monde en même temps et d'avoir, OK, à telle heure, on va là, à telle heure, la voiture va être là pour t'amener là. Ça, c'était top-notch, là. Tu sais, c'était vraiment du haut de gamme, puis je vais toujours avoir des bons souvenirs de Riyad. J'ai subi ma première défaite, si vous voulez, en quatre visites en Arabie Saoudite. Et j'espère que ce sera pas, j'ai pas aimé le fait qu'on a perdu la dernière. Puis j'espère que ça, on va être sur le chemin de victoire, mois de février avec Usyk. Mais, écoute, c'était tout un événement. Tous les boxeurs qui étaient là. Ça aurait été impossible qu'un promoteur ordinaire organise un soirée de boxe avec tous les noms qu'il y avait sur sa carte-là sur une même soirée. Parce que probablement tous les combats qui étaient là auraient pu être une finale eux-mêmes.
Ou du moins, en tout cas, une demi-finale. Il y avait plusieurs combats excitants par rapport à sur papier, les résultats également. C'est une longue, longue journée de boxe. Si on parle du premier combat jusqu'à la fin, avec oui. plusieurs entraques, par rapport avec la soirée, je pense que ce que tu as mentionné, les gens ont senti ça. Moi qui étais spectateur, qui regardais le combat, les gens qui ont pu regarder le combat sur DAZN, tu as l'impression que c'était vraiment une grosse soirée, un gros événement, avec plusieurs surprises. Certains combats qui étaient moins surprenants par rapport, je pense surtout au résultat des premiers combats, que ce soit les victoires de Frank Sanchez, Opetaia, qui est peut-être maintenant une étoile vraiment montante, le champion à 200 livres avec cette victoire par knockout. Tu avais une couple de victoires, Philippe Orgovitch, qui était pas mal comme prévu, tel que prévu. Celui de Makhmoudov, c'était surprenant. Moi, je t'avais parlé avec toi, Russ, avant le combat, à quel point que Kabayel était mieux que le négligé 7-1, n'avait jamais perdu, n'avait jamais vraiment été ébranlé, avait affronté plusieurs gros cogneurs, avait battu des gros noms comme Derek Chisora, mais on s'attendait que Makhmoudov, avec sa puissance et sa façon destructive, de gagner quand même le combat. C'est pour cette raison qu'il était favori, mais on a vu la blessure importante. À quel point, Russ, que dans le coin, tu te souviens que vous vous êtes regardé et vous avez dit, OK, on est peut-être déjà plus compliqué que prévu le combat face à Kabayel?
Moi, je remarque que dans le premier round, je me souviens d'avoir dit à Marc, le vitesse est en train de nous tuer. Parce que premier ou deuxième round, okay. J'ai dit, parce que le mouvement, la vitesse d'exécution, quand vous avez deux boxeurs, qu'un gars, il est pas vraiment rapide, puis t'en as un autre qui est haut de la moyenne dans son rapidité, ça fait un écart encore plus large entre les deux boxeurs. Et je pense qu'on a vu ça assez tôt dans le combat, que Kabayel était capable de bouger, puis quand Aslambek venait pour lancer un coup ou il manquait un coup, il se fait toucher par des combinaisons de deux, trois coups en même temps ou un coup rapide qu'il n'a même pas vu venir. C'était surprenant la vitesse de Kabayel dans le combat. Et je pense qu'il a vu ça et il était tellement confiant de voir les coups venir de Aslambek que je pense qu'il a changé son stratégie plus tôt que prévu. T'sais, il avait peut-être l'intention de fatiguer Makhmoudov ou de le reculer ou quelque chose peut-être après la cinquième ronde ou que à partir du deuxième ronde, il a décidé d'y aller. Là, t'sais, il y avait, on voyait dans son visage qu'il n'y avait aucune inquiétude de se faire toucher par les, peu importe la puissance de Makhmoudov, il voyait tout venir puis il n'y avait aucune peur. Il était confiant qu'il était capable de dealer avec la force, puis il voyait toutes les coups venir. Fait qu'il a changé ça, puis il a commencé à appliquer la pression sur Makhmoudov, et Aslambek n'avait pas de réponse à ça. Puis il a commencé à attaquer le corps, qui m'a surpris qu'il a fait tellement mal, il a fait si mal à Aslambek si tôt dans le combat avec des coups au corps.
Et à quel point que dans le coin, tu savais qu'il était blessé? Est-ce que vous l'avez juste
vu après
le combat?
Pas en tout, il n'y avait aucune mention. On n'a pas vu où il n'avait pas fait de grimace. C'est en rentrant dans le vestiaire, la commission athlétique là-bas, quand ils te font examiner tout de suite après le combat, c'est eux qui découpent les bandages. Il est rentré dans le vestiaire. Après, moi, j'étais dans le vestiaire. Lui, il est parti avec Sam au docteur. Puis je lui attendais dans le vestiaire. Puis il est venu, puis il dit, Russ, il dit, garde, il dit, touche mon doigt. Il dit, garde, ça, il y a quelque chose qui bouge. Et vraiment, j'ai touché ton os, puis elle bougeait, là, tu sais, boum, ça bougeait, je le sentais bouger, déplacer, genre, c'est bizarre ça, mets ça dans la glace, mais j'ai dit, mais il y a quelque chose. Sam, il a dit, ben, viens-t'en, le docteur, il est là, on va l'amener, le docteur, ils l'ont amené, ils ont même fait un rayon X sur place, puis ils ont déterminé qu'il y avait une fracture, c'est eux, ils ont dit, on ship à l'hôpital tout de suite. Et c'est ça qu'ils ont fait.
Oui, donc Arsène Beck a demeuré. Je pense même Camille, Stéphane, le promoteur de Tiger, a demeuré sur place pour l'opération par la suite qui va probablement aussi avoir un impact sur le retour de Makhmoudov. Combien de temps va-t-il demeurer inactif en raison de la blessure? Mais pour revenir également au défi qui était Kabayel, on n'a pas entendu beaucoup, Russ, par rapport à l'équipe. La semaine prochaine, on va être à Ville de Québec pour le gros gala d'Arthur Beterbiev. Mais Marc Ramsey, Anthony, j'ai pas entendu beaucoup de commentaires par rapport. Oh, tu sais, c'était Noël, ça donne des fêtes, il n'y avait pas de journaliste québécois sur place. C'est quoi, comment ça a été la réaction par rapport à les commentaires de Marc ou dans le vestiaire avec Antonin et le reste de la gang?
Écoute, je pense que tout le monde a été déçu. Je pense que personne je sais que Marc m'avait dit avant le combat, on est dans un fight. C'est une vraie fight, ça. OK, parfait. C'est pour ça que tu m'as surpris quand tu m'avais dit que on était favori à 7 contre 1, que Kabayel était négligé à 7 contre 1. Puis j'ai dit, pourtant, Marc m'a dit qu'on est dans un vrai fight. Là. Marc m'a jamais parlé comme quoi qu'on était un gros favori, puis c'est un genre de fait accompli. Puis lui, c'était, on était dans une fight. Là. Je peux pas dire ça plus simple que ça. Puis ça, c'est exactement ce que Marc m'a dit. Fait que je comprends pas de où les parieurs ils ont pu trouver des cotes de même de 7 contre 1. Mais je pense pas que, malgré la défaite, je pense pas que personne attendait à une défaite aussi expéditive comme quoi qu'on a vu de la part de Kabayel. Puis comme je te dis, je pense que Kabayel il a changé de stratégie beaucoup plus tôt que prévu.
OK. Par rapport, pourquoi tu penses qu'il a changé de stratégie? Parce qu'il était pas intimidé par la puissance de Makhmoudov?
Pas la puissance. La puissance était là, mais il voyait tout venir. Il voyait tout venir. Au début, tu voyais qu'il avait pas peur, mais il était très, très respectueux envers la puissance, envers la masse, envers la masse de Makhmoudov. Puis là, il a déplacé. Là, Makhmoudov, comme qu'il fait toujours, il a poursuivi tout de suite son attaque. Puis là, il commence à manquer. Puis pas manquer par ça, là. Manquer par ça. T'sais, il manquait par gros. Puis là, Kabayel, il voyait tout du nez. Même quand Makhmoudov était proche, Kabayel, il était capable de bouger son haut de corps. Il voyait les coups venir. Puis là, il les voit venir. Là, de plus en plus que le combat avançait, mais je devrais dire, de plus en plus que les minutes dans le round avançaient, il bougeait de moins en moins, puis il a resté là. Il était confiant d'être en avant de Makhmoudov, puis esquiver les coups, puis contre-attaquer. Et je pense pas que personne attendait à ça. On pensait que Kabayel était pour bouger. Puis nous autres, on espérait que ça, avec la pression que Makhmoudov mettait sur Kabayel, ça va le fatiguer. Mais comme je te dis, c'est pour ça que je te dis que Kabayel, il a changé de stratégie de bonne heure dans le combat. Tôt dans le combat, tôt.
Et Kabayel, avec cette victoire qui fait en sorte maintenant qu'il est monté au classement dans le top 10 du Ring Magazine, qui est selon moi le classement le plus fiable parmi tous les classements qui sont disponibles, là, incluant bien sûr les organisations qui ont des fois un peu des raisons politiques derrière leurs décisions de classement. Du Ring Magazine, je trouve le plus fidèle, même si des fois, on peut avoir des désaccords, c'est un peu une interprétation. Mais Kabayel, un top 10 poids lourd, tu regardes le boxeur Russ que tu as vu sur place le 23 décembre, à quel point Kabayel mérite sa place parmi les meilleurs de la division, ou penses-tu vraiment c'est peut-être juste une excellente soirée de travail ou une mauvaise pour celle de Makhmoudov? Parce que Kabayel, il y a quand même des combats intéressants également qui pourraient s'offrir à lui avec cette performance-là. Il n'est pas évident comme client.
Non, il n'est pas évident. Et c'est un gars dangereux. Puis là, je pense qu'il faut l'accepter pour une vraie de vraie. Il a battu Chisora. Pas facile de battre Chisora. Oui, tu vas le battre. Oui, il va avoir des défaites. Mais tu vas payer cher là pour le battre. Ça va être exigeant de le battre. Donc, victoire sur lui, une victoire inattendue et facile contre Makhmoudov. Je pense qu'il faut qu'on le considère comme un vrai aspirant qui va donner des problèmes à n'importe qui dans la division?
Bon, mais d'abord, quand on regarde de l'autre côté, Makhmoudov, je sais pas s'il est à l'équipe à l'interne. Bon, est-ce que tu as déjà eu la chance de parler un peu par rapport à la suite des choses, ou c'était trop tôt, ou sinon comme observateur? Parce que là, on s'entend, Makhmoudov, il y avait un aura vers lui un peu là, de intimidation, puissance, destruction, que là, il y a beaucoup de gens qui vont être prêts à l'affronter. Là. Ce sera plus le cas quand tu perds par knock-out au corps. Donc là, par la suite des choses avec Makhmoudov, c'est une position intéressante parce que c'est peut-être que c'est OK, quelques combats tranquilles pour rebâtir sa confiance. Peut-être qu'on veut juste le mettre dans des combats excitants parce que Makhmoudov va être excitant peu importe victoire ou défaite. Il y a des gens au Québec qui vont commencer à écrire Simon Keane Makhmoudov. Let's go. On est intéressé. Toi, tu penses quoi, Russ? Ou est-ce que tu aurais pu en parler un peu avec Marc ou quelqu'un de l'équipe?
OK, ça c'était la première question. Fait que je préparais ma réponse face à ça. Non. J'ai pas parlé à personne. J'ai pas parlé à Marc. Malheureusement, nos horaires. Moi, aussitôt que le combat de Makhmoudov avait fini, après qu'on l'a coupé, tu sais, après on a changé nos affaires dans le vestiaire et tout, le chauffeur, il était là pour me ramener à l'hôtel parce que mon avion, il fallait que j'aille à l'aéroport quelques heures plus tard. Fait que je pouvais pas me permettre d'attendre que le gala finisse avant de partir parce que j'aurais pas eu le temps de faire mes valises puis se rendre à l'aéroport. Fait que moi, j'ai parti tout de suite. Marc, il partait tôt le matin. Il partait même avant moi. Fait que lui, il est parti tôt le matin. Fait qu'on s'est pas croisé, on s'est pas vu puis on n'a pas jasé à notre retour. C'était la veille de jour de Noël, quand je suis arrivé, il était 7h30 le soir quand je suis retourné à Montréal.
Oui, donc comme observateur d'abord, tu penses quoi pour la suite des choses?
Exactement comme tu dis, il y a deux options maintenant. Soit tu continues à aller chercher les gros noms de la division pour le plus gros montant d'argent possible et tu vois qu'est-ce que Makhmoudov est capable de faire parce qu'il va toujours avoir une demande pour une poids lourd. Où tu fais quelques petits combats, puis après ça, tu t'en vas chercher un autre. Quelques petits combats, puis tu t'en vas chercher un autre, admettons, une autre défaite. Il n'y aura pas de manque de combat pour Makhmoudov. Ça, c'est sûr. Il n'y aura pas de manque de combat. Tout le monde va vouloir affronter. Maintenant, ça va être un combat intéressant. Au début, puis je dis ça honnêtement, je pense que personne n'aurait voulu affronter, et j'étais surpris que Caballel l'a fait. Affronter Makhmoudov était supposé être une difficile soirée. Difficile. Et pourquoi tu mettrais ton boxeur contre un gars de 6 pieds 8, je sais pas trop, 285 livres, là, un monstre avec la puissance que, ben non, tu évites ça à le plus longtemps possible. Maintenant, avec qu'est-ce que Caballel, était capable de faire, je pense qu'il y a beaucoup de boxeurs qui vont être dans l'obligation maintenant de l'accepter parce qu'ils vont dire à le boxeur, l'autre adversaire, « Hey, il a perdu contre Caballel. Si toi, t'es capable de battre Makhmoudov, t'as pas d'affaire d'être top 10. » Fait que là, ça va être peut-être un peu plus facile d'avoir des combats pour Arslan Beck, mais ça va être des combats contre des vrais gars de la division.
À moins que Eye of the Tiger décide d'être patient et ramener des combats de développement.
Ça c'était la deuxième option.
Poser. Et je vais pouvoir y poser moi-même sur place la semaine prochaine à Québec à Anthony Descarry et Camille Stéphane.
Oui.
Et ça gagne.
Oui. Ça sera bon à savoir. Puis, est-ce que c'est possible de faire des combats locaux? Je pense qu'il y a Simon, il y a l'autre, comment il s'appelle, l'autre poids lourd qui n'est pas avec Eye of the Tiger, vraiment bon.
Barrière, Alexis Barrière.
Oui, Alexis Barrière. Tu sais, il y a des combats quand même. Ça peut être intéressant.
La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos cents dans la petite enveloppe. Là. C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une cent d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de cents dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Russ, quand on regarde le reste de la division poids lourd, il y avait beaucoup d'action sur place. La surprise, Deontay Wilder, qui perd presque tous les rounds contre Joseph Parker. Performance complètement de Wilder qui pose des questions. Est-ce que c'était une mauvaise soirée au bureau? Est-ce que les combats contre Fury ont commencé à prix? Tu sais, dans le fond, on voit des boxeurs devenir old overnight, comme on dit, vieux assez rapidement. Anthony Joshua, que beaucoup de gens pensaient que Wilder allait donner des complications, domine, gagne en confiance, gagne en par knockout. Donc, quand on regarde ces résultats-là, là, de le reste, la carte des poids lourds, puis qu'est-ce que le portrait de la division, y avait-tu un côté de toi un peu satisfait de voir Wilder perdre contre Joseph Parker?
Matt, ça, j'ai beaucoup plus à dire sur ces deux combats-là que sur Makhmoudov, parce que je pense que tout le monde a vu le combat de Makhmoudov.
Mais tu travailles dans le coin de Makhmoudov, tu ne travailles pas dans le coin des deux autres.
Je sais, mais j'ai plus d'informations.
Bon, ben allez, vas-y, parce qu'on a 10 minutes maximum qui reste. C'est un poids le baron ce soir-là.
Aussitôt que... Oui, absolument. Aussitôt que j'ai regardé le combat de Wilder sur vidéo, je ne l'ai pas regardé live, fait que j'ai pris le temps de le regarder. Sais-tu quoi la première chose que j'ai faite?
La première chose que tu as faite après avoir
écouté... Après avoir regardé ça, oui.
Appeler Mark Breland?
Non.
Je ne sais pas.
J'ai retourné pour regarder son combat contre Bermain Stevern quand il est devenu champion du monde.
Tu étais dans le coin à cette époque, juste pour clarifier.
Plus que dans le coin, mais oui. OK? J'ai pris le téléphone. Après quatre rondes de regarder contre Stevern, j'ai pris le téléphone. J'ai appelé JD, son entraîneur de son premier journée dans le gym. Puis j'ai dit, Jay, écoute, on n'a pas eu chance de parler. Qu'est-ce qui est arrivé? Blablabla. Là, on a parlé un peu. Il m'a glissé certaines affaires. Puis j'ai dit, Jay, as-tu la chance de regarder le combat contre Bermain Stevern? Il dit, on l'a tout regardé. J'ai dit, moi, je vais te dire quelque chose maintenant que peut-être vous l'avez dit entre vous autres, puis peut-être vous me direz pas, mais il ne reste absolument rien sur quoi qu'on a tous travaillé pour préparer Wilder pour ce combat contre Stevern, puis le couple de combat après. Il ne reste aucune empreinte de qu'est-ce que j'ai fait durant mon séjour, mes 5 ans avec Wilder. Ce n'est plus là. Il est plus le même boxeur. Sa positionnement, comment qu'il lance ses coups. Il a dit, Russ, on a tout dit ça quand on s'est, on n'a pas dit que Russ, mais que Wilder, il était plus pareil, le même boxeur. J'ai dit, des fois, c'est difficile à voir ça quand tu boxes à tous les 6 mois. Tu vois pas la différence telle qu'elle. Mais quand tu regardes un combat après l'autre, Wilder, Molina, blabla, puis tu regardes comment qu'il boxait à cette époque-là et que tu le regardes maintenant, il ne reste rien de ce boxeur qu'on avait préparé pour devenir champion du monde à cette époque-là. Ça, c'est la différence d'en avoir un camp qui travaille bien, qui travaille sur des détails sur un boxeur, que juste laisser quelqu'un faire qu'est-ce qu'il veut, puis donner des instructions verbales. Move, jab. Oui, mais move puis jab, il y a une façon de move puis une façon de jab que tu es obligé d'enseigner. Et on voit clairement qu'ils n'étaient pas capables de reproduire qu'est-ce qu'on avait reproduit à cette époque-là. Et la dernière chose...
C'était contre Fury, par contre, Russ.
Pardon?
Mais Wilder avait connu du succès par moment contre Tyson Fury.
Si Wilder avait boxé à son niveau de talent qu'on avait eu lors du combat de Stevern et par après, il aurait battu Fury. Mais même le combat de Fury, il y avait tellement de détails qu'il n'était pas bon. C'est pour ça qu'il a fait un combat nul la première fois et perdu les deux par après.
Donc, typique de beaucoup de boxeurs qui atteignent un certain niveau, ils deviennent un peu, ils veulent avoir des gens autour d'eux qui sont un peu ce qu'on appelle des yes men.
Oui.
Des gens qui sont là pour diriger le camp. Toi, tire les pattes pour moi. OK, book les partners d'entraînement. Moi, aujourd'hui, je cours à cette heure-là. Je fais ce que je veux à cette heure-là. Comparativement à un camp avec vraiment quelqu'un qui lui donne, voici ce qu'on fait aujourd'hui, voici ce que tu vas apprendre. Puis, et Wilder,
c'est pas juste de qu'est-ce ça, non? C'est pas juste de qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, mais de l'enseigner à le faire. Et Jay il était absolument d'accord avec moi. Il peut jamais le dire publiquement. Moi, je peux le dire. Lui, il peut jamais le dire publiquement. Wilder ne le dirait jamais publiquement. Mais moi, okay. Je le sais. Moi, je le sais. Malik Scott le sait, puis Jay Dees le sait.
Mais tu le savais pas avant le combat que ça allait arriver. Parce que tu étais très confiant qu'il allait battre Parker.
J'étais confiant, oui. Ça, c'est vrai. Mais ça veut pas dire qu'il n'y aura pas eu des défauts à le battre non plus.
Mais à quel point qu'il faut donner crédit aussi à Joseph Parker, que lui, il semble être quelqu'un qui veut apprendre avec Andy Lee dans son coin comme entraîneur.
Absolument. Il a vraiment fait un bon combat, puis il était très, très respectueux envers. Joseph Parker, c'est un class act, là. C'est vraiment un homme de classe. Et il a donné tout le crédit à Andy Lee après le combat. Quelque chose que Wilder n'a jamais fait durant son camp qu'on était avec lui, où il a jamais donné crédit. S'il a donné crédit, il a dit, j'aimerais remercier mon équipe. Il a jamais mentionné personne, tu sais.
Ah, Heyman, il l'a mentionné.
Ouais, c'est ça. Mais pas l'équipe d'entraînement.
Fait que,
vraiment une performance. Encore un autre gars que, moi, la raison pourquoi je pensais que Wilder, il était pour gagner, c'est à cause de la défaite de Joseph Parker face à Joe Joyce. J'ai dit, man, si un boxeur lent comme Joe Joyce aurait pu toucher Parker, quelqu'un comme Wilder qui est plus rapide qu'on pense, en vrai, il est plus rapide que qu'est-ce qu'on voit sur vidéo. J'ai dit, s'il touche, fini. Il a même pas lancé le coup de poing. Fait que je sais pas comment qu'il fait. Ça a l'air qu'il filait pas. Tu sais, il était pas pour donner des excuses, mais il filait pas, blablabla. Mais il a vraiment pas performé comme qu'il aurait dû. Puis comme Jay m'a dit une chose aussi, il m'a dit, Russ, il a 38 ans.
Donc, c'est-tu la fin pour Wilder?
Je sais pas.
Mais de ce que tu penses qu'à cause de sa puissance, s'il se décide, il y a encore de quoi faire par rapport à, c'est encore un nom. Il affronte quand même, il peut affronter d'autres boxeurs. Dans la division que les gens vont être intéressés à le voir, mais comme
je disais. Oui, c'est sûr. Mais il n'y a pas besoin de boxer.
Non, je pense qu'il fait assez d'argent.
Oui, il y a de l'argent. Ça, j'ai eu le. Ça, oui, ça, je le sais. Il y a assez d'argent. Il n'y a pas besoin de boxer. Il fait de l'argent. Son argent, il est placé. Il était intelligent dans ses affaires avec son argent. Fait que s'il boxe, ça va être parce qu'il veut boxer. Il va être toujours dangereux avec la main droite. Mais je pense que maintenant, les gens, ils ont vu qu'est-ce que Parker... Mais Parker, il est très habile. Il faut que tu sois habile quand même pour faire qu'est-ce qu'il a fait. Mais il a tombé sur un Wilder qui a pas lancé de coup de poing, qu'il a pas... Tu sais, il était pas le Wilder qu'on connaît. Non. Et ça, c'est sûr. Ça, c'est évident. Pourquoi, c'est une autre histoire. Peut-être, lui, dans sa tête, va dire, écoute, moi, je le sais que j'étais malade, j'étais ci, j'étais ça. Je sais que je suis mieux que ça. Je le sais que dans le gym, j'étais meilleur que ça. Et il y a quelque chose qui l'a affecté, peut-être. Parker, il a contribué à ça, c'est sûr. Mais peut-être qu'il y a quelque chose qu'on sait pas, puis le prochain combat, Wilder peut être encore, oh, bang, il sort la main droite, puis bonsoir, c'est fini. On sait jamais, il y a encore la puissance. On va voir. Mais qu'est-ce qui m'a troublé aussi, mais là, on sait pourquoi, puis après qu'est-ce que Jay m'a dit, tout de suite après la pesée officielle, j'ai vu Jay, ils ont annoncé le poids de Wilder à 213 livres. Le combat contre Steven, qui date de combien de temps maintenant?
Oh, ça doit faire un bon 10 ans.
Peut-être 10, 9, 9 ans, peut-être. Il pesait 219. Comment qu'il pourrait... Puis contre Fury, il était dans les 235, quelque chose de même. Oui. Comment tu peux être à 213? Fait que je demande à Jay, j'ai dit, Jay, comment qu'il a fait pour faire 213 livres? Il dit, oh, on fait manger plus. Il a fait ça comme joke, là, tu sais. Mais peut-être ça, c'était un indice de comment qu'il était malade ou quelque chose n'était pas correct avec lui.
Bon, écoute, on pourrait continuer sur Wilder, mais il nous manque un peu de temps. Donc, on va y revenir éventuellement dans le futur par rapport à sa décision pour le reste de sa carrière. 2 minutes, Russ, sur Anthony Joshua. À quel point maintenant que Joshua redevient, si on veut, dans le driver's seat pour attendre le gagnant de Fury Usyk? Et le plus gros nom de la division.
Il n'y aura pas pu demander un meilleur résultat que ça. Et je vais vous dire quelque chose. Des fois, des gens ne savent pas. Wilder et Wallen se sont déjà affrontés quand ils étaient amateurs.
OK.
Wallen et Wilder et Joshua se sont déjà travaillés ensemble quand Wallin faisait un partenaire d'entraînement pour Wilder, pour Joshua.
OK, juste pour qu'on soit clair, est-ce que t'arrêtes pas de dire Wilder, là? Anthony Joshua de Wallin, c'est le combat Joshua gagné par knockout à Riyad. Tu parles qu'il y avait une histoire historique entre les deux avant même le combat.
Oui, ils ont boxé dans des rangs amateurs ensemble. Je me souviens pas exactement de le résultat, mais je pense que Joshua a gagné. Ils ont travaillé ensemble quand Wallin était partenaire d'entraînement à Joshua. Et je pense que ça donnait une confiance à Joshua. Il savait qu'il n'y avait pas de menace de lui. Fait que le Joshua confiant, il savait en quoi qu'il s'attendait à Wallin, a fait en sorte qu'il a sorti le meilleur de lui-même, puis tu n'auras pas pu demander un meilleur résultat que ça. Ça, c'était le combat de la soirée pour redémarrer sa carrière. Pareil comme Makhmoudov, tu n'auras pas pu demander une meilleure soirée. V'là 2 mois, quand il a knocké son adversaire en 30 secondes avec deux coups de puissance extraordinaire, c'est ça qui l'a mis sur cette carte-là, puis qui l'a mis en évidence comme « wow, un gars dangereux dans la division ». Et Joshua vient de faire la même affaire. « He's back », comme qu'on dit. « He's back », puis il est encore le visage de la division. Et tout le monde qui veut passer par dans la division peut passer par Anthony Joshua. Il est de retour.
Je pensais que Fury et Usyk étaient les visages de la division.
Fury et Usyk sont les champions de la division. Mais maintenant, Joshua, il est venu, il est encore le vache à lait.
Wow.
Moi, je pense que Joshua est encore le vache à lait.
Et la vache à lait qui a perdu 2 fois contre Usyk, Russ. Donc, ça regarde bien quand même pour les gens qui disaient peut-être que Usyk n'a pas de chance contre Fury.
Mais laisse-moi te dire quelque chose. J'ai passé en entrevue avec TNT Télévision là-bas.
Oui,
et moi, j'ai dit à tout le monde, vous étiez très, très sévère et injuste même envers Joshua après ses défaites contre Usyk. Vous l'avez traité comme il était un favori à 8 contre 1, 7 contre 1, 10 contre 1, puis il a perdu. Puis c'est pas vrai. C'est pas vrai, il a perdu. C'était un combat 50-50, puis il a perdu contre un athlète extraordinaire de notre génération. Un gars qui était champion à cruiserweight, puis il a monté, il est devenu champion à poids lourd. T'sais, il a perdu contre un boxeur extraordinaire, puis vous l'avez traité comme il avait perdu contre une bombe. Mais il n'a pas perdu contre une bombe, puis il n'est pas une bombe non plus, puis je pense qu'il a fait preuve de ça le 23 décembre.
Donc, en terminant, facile de dire que Joshua, tu l'aimes un peu plus que Tyson Fury en termes de personnalité?
Man, j'aime ma tasse plus en tant que personnalité que Tyson Fury.
Le Gypsy King, Russ.
Ben oui, le Gypsy King. OK, on va le voir, le Gypsy King.
Le 18 février, hein, c'est la date?
Non, c'est pas la date, c'est le 17 février.
La misère avec mes dates, le 17 février.
Oui, 17 février. Russ, il revient le 19.
Ah, c'est ça.
Il atterrit le 19. Ouais. Bon. Mais le combat, c'est le 17 en soirée.
Bon, faut qu'on se laisse aller. On va se parler la semaine prochaine. Toi, tu vas déjà être en Europe pour le camp d'entraînement de Usyk. Je vais être à la ville de Québec pour le gros gala au Centre Vidéotron d'Arthur Beterbiev face à Callum Smith pour 3 des titres des 175 livres. Et si Arthur Beterbiev gagne, il y aurait une entente de principe à affronter Dimitri Bivol qui a gagné son combat du 23 décembre à Riyad face à Lyndon Arthur. Donc, on pourrait avoir le champion, les 4 titres en jeu en 2024 à Riyad entre Bivol et Beterbiev. Donc, ça promet la semaine prochaine, M. Enberg.
Écoute, ça va être un combat très excitant, très dangereux pour les deux boxeurs. C'est deux de mes amis. Je vais sentir mal pour mon ami qui perd et je ne peux pas avoir de joie pour celui qui gagne parce qu'il aurait battu mon ami. Peu importe de comment ça va. Fait que c'est un combat. Je me souviens pas d'avoir été dans un genre de combat comme ça ou d'un feeling comme ça dans ma carrière. D'avoir deux gars. Non. Je peux te le dire la dernière fois.
Sultan ou le baron t'attend, là?
Vite, je vais te le dire. Quand Barrington Francis a affronté Victor Salvatore, ici à Montréal, j'ai quitté les lieux pour ne pas regarder ce combat-là parce que c'était mes deux amis qui boxaient ensemble.
Quel a été le résultat du combat?
Le résultat, c'est que Barrington Francis l'avait arrêté. Il était en arrière au point, puis il l'avait arrêté, je crois, c'était au 10e round, si je ne me trompe pas.
Ouais, ça, c'est le dernier. Les années 80 ou même avant?
90. Des années. Je pense, si je ne me trompe pas, c'était la même soirée que Stéphane Ouellet avait perdu son premier combat.
Je vais faire la recherche, puis je te reviens, Russ, avec la réponse la semaine prochaine au balado, le dernier round. Je te laisse aller.
En direct de Europe.
En direct de Europe. On a, parts unknown, on n'a pas le droit de dévoiler le camp d'entraînement d'où c'est où, hein? C'est top
parts
secret.
Parts unknown, c'est ça.
Top secret. D'ici là, je te souhaite de regarder beaucoup de vidéos de Tyson Fury dans l'avion pour la route du camp d'entraînement.
Inquiète-toi pas, mon ami. Inquiète-toi.
On se parle la semaine prochaine, M. Enberg. Merci beaucoup. Merci aux auditeurs. Vous pouvez nous écrire au dernierroundbox@gmail.com. Merci.
Et encore, bonne année à tout le monde, hein?
Bonne année.
OK, Matt.